Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il vous accorde sa faveur, sa grâce, sa bienveillance et sa miséricorde. Il ne change pas notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, nous glorifions son Saint-Nom, lui qui nous a aimés, bien-aimés. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Oh, nous le glorifions pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oh, gloire à Jésus. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous de continuer notre formation sur les gagneurs d'âmes. Oui, nous allons continuer notre formation sur le gagneur d'âme. Notre Dieu est merveilleux. Il ne cesse d'opérer des grands miracles, des grandes choses dans nos vies. Il n'y a aucun qui peut se comparer à lui. Il mérite la gloire. Oui, bien-aimé, c'est l'heure de la formation des gagneurs d'âmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimé, de préparer votre cahier, votre stylo, votre Bible. Oh, Jésus-Christ Seigneur, c'est l'émission École Turanis, c'est une émission de la maison cité de Dieu qui vous est présenté à la radio cité de Dieu, la radio cité de Dieu qui est une radio de la maison cité de Dieu. Nous glorifions le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde de partager sa parole, de parler encore de sa parole, car il est digne de recevoir, alléluia, la gloire. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons élever ton Saint-Nom au-dessus de tout. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée en ces jours, ô mon Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Il n'y a que ta parole qui peut nous sauver. Il n'y a que ta parole qui peut nous guérir. Il n'y a que ta parole qui peut restaurer notre âme. Il n'y a que ta parole qui peut guérir les âmes desséchées. Il n'y a que ta parole qui peut nourrir nos âmes. Il n'y a que ta parole qui peut sauver nos âmes. Il n'y a que ta parole, ô grand Dieu, qui peut délivrer nos âmes. Ô la parole de Dieu, cette parole vivante qui pénètre, ô jusqu'à séparer esprit et âme. Ô, nous avons besoin de ta parole, que ta parole pénètre aujourd'hui jusqu'à séparer esprit et âme, jointure et moelle. Oh, la parole de Dieu, la parole vivante, que ta parole pénètre jusqu'à séparer les âmes qui étaient attachées, les âmes qui étaient en prison, que ta parole libère ces âmes en prison, ces âmes, oh Père éternel, qui étaient humiliées, qui étaient abandonnées, que ta parole se manifeste, que ta parole accorde la vie. Ha! Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit, toute âme et tout corps soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Loin de nous tout ce qui est de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière soit dans nos vies, dans la vie de tes enfants, partout se trouvent en ce moment. Ô Père, que tu crois ce que je diminue, apparaît que je disparaisse. Car sans toi, je ne peux rien faire. Mais je crois en ta grâce. Je m'humilie devant toi. Mets tes paroles dans ma bouche. Que je ne parle pas par habitude ni selon mon expérience. Mais que le Saint-Esprit parle et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur est merveilleux. Nous poursuivons notre formation sur les gagneurs d'âme. Vous savez, le Seigneur ne cesse de faire de grandes choses dans nos vies. Il ne cesse de nous enseigner, de nous apprendre et de nous révéler de grandes choses cachées que nous ne connaissions pas avant. Lorsque tu t'accroches au Seigneur, bien-aimé, il se manifeste, il libère, il révèle, il sauve, il guérit et il donne la paix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu nous a encore accordé la vie aujourd'hui pour que nous puissions partager sa parole. Pendant que vous écoutez cette parole, bien-aimé, nous allons vous prier d'avoir un cahier avec vous pour écrire. Et lorsque vous vous retrouvez quelque part, nous vous prions, s'il vous plaît, de les noter quelque part. Notez-les quelque part et que ça soit pour vous un sujet de prière. Que ça soit pour vous vraiment un sujet de prière et que ça vous permet à vous approcher de Dieu pour prier, pour vous repentir et demander à Dieu de délivrer votre âme, demander à Dieu de vous révéler où se trouve votre âme. Ne suivez pas cet enseignement par habitude, mais le Seigneur a permis pour que tu sois libéré, toi, et aussi les âmes que tu vas gagner à Christ. Alléluia. Et n'hésitez pas de prendre contact avec nous pour cette formation. Que Dieu soit avec vous et que le Seigneur puisse ouvrir ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de sa loi. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette formation, nous avons commencé à parler de la formation des gagneurs d'âme. Nous avons défini les mots gagneur et le verbe gagner. Le premier grand point, nous avons commencé à parler du verbe gagner et du mot gagneur. Et le deuxième point, bien-aimé, c'était l'âme. Nous avons commencé à parler de l'âme. Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre selon la grâce de Dieu et la conduite du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est merveilleux, lui qui nous a aimés. La fois passée, nous avons parlé des âmes, l'âme attachée. La fois passée, nous avons parlé de l'âme attachée. Nous avons vu dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 18, 1 et 3, nous avons vu comment est-ce que l'âme de David et de Jonathan était attachée. Et comment est-ce que Jonathan a fait alliance avec David parce qu'il l'aimait. L'amour qui était dans Jonathan et David a fait que leur âme soit attachée. Et nous avons dit que dans le bon sens, il n'y a pas de problème. Si vous vous aimez, bien aimé dans le Seigneur, vos âmes peuvent s'attacher. Et nous avons aussi parlé, nous avons vu dans Lévitique, la parole de Dieu nous dit, Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger le sang de toute chair. Car il est écrit que la vie de l'âme, c'est dans le sang. Votre vie se trouve dans votre sang. L'âme de la personne se trouve dans son sang, bien-aimé. La vie de ton âme se trouve dans ton sang. Et Dieu a interdit aux enfants d'Israël de manger le sang de toute chair. Et nous avons vu comment est-ce que beaucoup de gens sont arrivés à commettre les graves erreurs jusqu'à faire attacher leur âme. Nous avons parlé de l'alliance du sang. Vous savez, bien aimé, nous avons dit la fois passée que ton âme se trouve dans ton sang, la vie de ton âme se trouve dans ton sang. Alors il y a eu beaucoup de gens à cause de l'amour, je ne sais pas si c'était quel amour, ils sont arrivés jusqu'à sucer le sang les uns les autres. Et nous avons dit qu'en sucant le sang, bien aimé, c'est l'âme de cette personne-là que vous mangez. Quand vous sucez le sang de quelqu'un et que son âme se trouvant dans son sang, automatiquement l'âme de cette personne-là se trouve en vous, emprisonnée, attachée en vous. Et vous aussi, de même, votre âme se trouve attachée dans l'âme de cette personne-là. Et nous avons dit, aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui n'ont plus une seule âme. Puisque tu as eu à manger plusieurs sangs, il se fait que maintenant en toi tu pèses lourd parce que tu as beaucoup de âmes en toi. Et comment est-ce que le Seigneur peut agir dans ta vie? Tu te dis que Dieu ne me connaît pas. Je l'invoque et il n'agit pas dans ma vie. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu agisse parce que toi, tu as mangé beaucoup d'âmes. Tu as sucé le sang de beaucoup d'âmes qui se retrouvent en prison, attachées dans ton corps, dans ton âme. Tu n'as pas une seule âme. Quand Dieu a créé l'homme, la volonté de Dieu était que l'homme ou l'être humain soit composé de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est-à-dire un seul esprit, un seul corps et une seule âme. Donc un être humain normal doit avoir en lui un esprit, une âme et un corps. Alors lorsque toi tu n'as plus une seule âme, tu as deux âmes, trois âmes, quatre âmes, 10 âmes en toi, là, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal, bien-aimé. Parce que l'âme de la chair se trouve dans son sang. Alors, voilà maintenant, bien-aimé, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que la démarche que vous devez faire, c'est de rentrer sous les pieds de Jésus-Christ dans la prière, dans la repentance, demander à Dieu de vous pardonner pour avoir mangé les âmes d'autrui, pour avoir sucé les âmes d'autrui. Et maintenant, bien-aimés, nous avons même dit par rapport à ça, si tu te retrouves par exemple en Afrique en ce moment, et que la personne avec qui vous vous êtes sucé le sang se retrouve en France. Alors, dis-toi que, puisque cette personne-là qui se retrouve en France a sucé ton sang, ton âme se trouve en lui. Ton âme est attachée dans son âme. Ton âme se retrouve en prison dans cette personne-là qui est en France. Et toi qui es en Afrique, je ne sais pas si c'est au Cameroun, Tu as aussi l'âme de cette personne-là. Donc chacun de vous a deux âmes. La personne qui se retrouve en France a et son âme et ton âme. Et toi aussi tu as ton âme et l'âme de cette personne-là. Alors si tu as y assisté le sang de deux personnes, trois personnes, tu n'as qu'à faire des calculs. Combien d'âmes tu as en toi? Voilà pourquoi tu pèses lourd. Et n'oublie pas, nous avons dit que l'âme, c'est le centre des émotions. Donc, l'âme de cette personne-là, si c'est une âme malade, donc tu vois automatiquement que tu es en train de souffrir d'une maladie qui n'est même pas la maladie de ton âme. Tu souffres à cause de l'âme d'une autre personne. Pourquoi? Parce que tu as accepté de sucer le sang de cette personne, parce que tu as accepté de faire l'alliance de sang avec cette personne-là. Lorsque vous faites l'alliance de sang, votre âme est attachée avec le sang d'une autre personne. Il y en a même qui ont pratiqué la magie, le fétichisme et l'occultisme, et qui ont poussé les gens à faire le pacte de sang. Et eux-mêmes, ils ont même fait des pactes de sang. Bien-aimés, lorsque vous faites un pacte de sang, vous enfermez votre âme. Automatiquement, votre âme est attachée, votre âme est emprisonnée. Le pacte de sang fait que ton âme soit en prison. Aujourd'hui, pour que tu sois délivré de ces choses, il faut rentrer sous les pieds de Jésus dans la repentance avec des pleurs. Prends la chose au sérieux. Parce que, bien aimé, aussi longtemps que tu te retrouves enfermé, parce qu'il y en a qui ont fait le pacte de sang avec le monde des ténèbres. Donc, tu es là, ton âme se retrouve dans le monde des ténèbres. Tu es utilisé chaque jour, chaque nuit dans le monde des ténèbres. Tu tues les gens, tu détruis parce que ton âme se retrouve dans les ténèbres. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu as créé des sérieux problèmes contre ta vie, contre les membres de ta famille. Il y en a même qui étaient engagés dans les sciences occultes. Et là, on leur a demandé de faire le pacte de sang. Et ils ont écrit le nom des membres de leur famille par leur sang. Ils ont établi la liste de tous les membres de leur famille. Et pour signer, ils l'ont fait avec du sang. C'est-à-dire, par son sang, il a condamné la vie de ces hommes-là. Et maintenant, ces hommes-là sont bloqués. Ils sont détruits. Parce que toi, tu as fait un pacte de sang. Bien-aimé, ton sang se retrouve en prison dans le monde des ténèbres. Il faut te repentir. Et à cause de ton sang, bien-aimé, ces gens-là, leur âme aussi, se retrouvent dans le monde des ténèbres. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule dans les veines. Les membres de ta famille, les gens de ténèbres sont compliqués. Ils savent que le sang que toi tu as, c'est le même sang que tes frères, tes parents ont. Alors, pour les avoir facilement, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leur sang. Toi, tu es déjà leur agent. Toi, tu t'es déjà engagé dans leur truc. Alors, pour avoir toutes ces personnes-là, ils n'avaient besoin que de ton sang. Voilà comment est-ce que toi tu as condamné les âmes de toute une famille, de toute une génération, même des gens qui vont naître après toi. Tu les as déjà condamnés parce que toi tu as donné ton sang. Voilà, tu n'étais pas sage et tu as condamné toute la famille, ils souffrent à cause de toi. Si aujourd'hui il y a des ivrognes, il y a des gens qui sont débiles dans la famille, c'est à cause de toi. Tu as vendu même tes propres enfants. Oh Jésus, alléluia. Voilà l'âme attachée, bien-aimée. Le pacte de sang emprisonne les âmes. Et sur la liste que toi tu as écrit là, dans ton truc là, on t'a demandé d'établir la liste des gens et tu as établi la liste.
Et après, tu as signé les papiers avec ton sang. C'est-à-dire, tu t'es porté garant de donner le sang pour toutes les personnes que tu as citées dans ta liste. Donc, tu as condamné toute une famille. Et souviens-toi que pour chaque personne, il y a une descendance. Donc, si tu as condamné 10 personnes, tu as condamné la descendance de 10 personnes. Tu vois maintenant que toutes les malédictions et les mauvaises choses qui arrivera dans la vie de ces 10 personnes et leurs descendants, c'est toi qui es à la base. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Le Seigneur t'aime. Il a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Même si tu pries, répands-toi. Parce que tu as fait ces choses et tu ne connaissais pas, tu ne savais pas la gravité de ces choses. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Il te parle. Il faut que tu libères les âmes de toutes ces personnes-là que tu as condamnées par ton sang en établissant cette liste. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes un gagneur d'âme avec de telles choses. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui servent Dieu. Mais vous trouverez dans leur vie des choses inexplicables. Ils vivent des situations inexplicables parce que leur âme est attachée. Je vous ai donné mon témoignage. Quand moi je servais le Seigneur, je priais pour les gens, mais mon âme était en prison dans un panier en plein air. Donc j'étais dans ce panier-là, mon âme était dans ce panier-là toutes les nuits, tous les jours et dans toutes les saisons. Qu'il pleuve ou qu'il y ait la chaleur, mon âme était toujours en prison. Et moi, je croyais que je dormais tranquillement dans la maison. Or, spirituellement, mon âme était en prison. Voilà pourquoi je faisais pipi au lit, parce que mon âme était encore en prison. Et lors de notre deuxième séance, je vous ai dit comment est-ce que le Seigneur a délivré mon âme. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu, mais leur âme est attachée quelque part. Leur âme est en prison quelque part. Mon âme s'est trouvée dans un panier en plein air. Ton âme peut se retrouver dans la forêt. Ça peut se retrouver sous l'eau. Ça peut se retrouver en prison dans l'espace. Ou dans la maison d'un féticheur, là où tu as donné ton sang, lorsqu'on t'a fait des tatouages, ton sang a coulé. Et n'oubliez pas, nous avons dit que le sang a une voix. Le sang d'Abel a parlé. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Donc, le sang d'Abel avait une voix. Et cette voix-là a crié de la terre jusque là où se trouvait Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons Caïn partout. Caïn a pris et maintenant il ne fait que changer de nom. Vous voyez tous les vents que nous voyons aujourd'hui qui détruisent, c'est Caïn. Bien-aimé, c'est pour montrer la conséquence de faire verser le sang d'autrui. Lorsque vous faites couler le sang, bien-aimé, il y a de sérieuses conséquences. Il y a de graves conséquences. Ne prenez pas ces choses à la légère. Il est bien de dire, puisque c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Toute personne à Christ est devenue une nouvelle créature. Oui. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie, nous devenons de nouvelles créatures. Mais bien aimé, la conséquence de ce que tu as fait, c'est ce que tu es en train de subir jusqu'aujourd'hui. Tu deviens une nouvelle créature, mais la conséquence est là. Parce que moi aussi, j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je priais pour les gens, le Seigneur les guérissait. Il y avait des guérisons instantanées. Le Seigneur faisait des miracles, des grandes choses. Mais je continuais à pisser au lit. Et mon âme était toujours en prison. On a fait des campagnes d'évangélisation en plein air. Le Seigneur faisait des grandes choses. Je gênais, je priais, mais mon âme demeurait dans la prison. Ça, c'était des conséquences, des choses et des alliances qui ont été faites. La Bible dit, puisque Jonathan a aimé David, ils ont fait une alliance. Mais toi, quelle alliance tu as fait et avec qui? Il y a beaucoup de sortes d'alliances. Il y a des alliances et des pactes diaboliques. Lorsque vous allez voir un marabout ou un féticheur, il prend les lames de l'asoir, alors il te fait des tatouages. Le sang qui coule là, ce sang parle. Et lui, il a justement besoin de ce sang-là qui parle pour bien te condamner. Eux, ils savent ce qu'ils font. Hein? Vous savez, bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Vers les années 79-80, ma mère était malade. Alors on a tout fait pour qu'elle soit guérie. Il n'y avait pas de guérison. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui priaient. Il y avait quelques-uns qui priaient, bien sûr. Mais les gens étaient tournés vers les féticheurs. Et on est allé dire à mes parents qu'il y avait un féticheur qui pouvait guérir ma mère. Alors, ils ont consulté le féticheur. Le féticheur qui dit, écoutez, ce problème, moi, je vais les régler. Mais pour bien les faire, il faut qu'ils viennent à la maison. Le féticheur est arrivé avec son assistant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le féticheur a fait? Ils ont pris une poule vivante. Ils ont étouffé la poule. Et lorsque la poule est morte, ils l'ont égorgée et ils ont pris le sang de la poule. Ils ont creusé un petit trou et ils ont versé le sang de cette poule dans le trou. Après quoi, le féticheur et son assistant ont préparé la poule. Bien-aimé, cette méthode de préparation, c'était ma première fois de les voir. Ils ont pris la poule, ils ont mis dans la marmite. Ils ont préparé la poule. Ils n'ont pas mis la tomate, ni les oignons, ni le truc là qui font que la nourriture sente bon. Ils ont pris le sel qu'ils avaient amené et des poussières noires. Pour eux, ces poussières noires-là remplaçaient les oignons, tout ce que vous pouvez imaginer, la tomate et tout. Et voilà, ils ont préparé la poule. Après quoi, ils nous ont demandé, donc nos parents et nous, de venir manger. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient préparé, même les pâtes, tout, la tête, tout. Ils n'ont rien négligé. Et ils l'ont mis dans une assiette Et ils ont pris un bassin d'eau. Après quoi, ils ont pris l'assiette et l'ont déposé sur ce bassin plein d'eau. Et ils nous ont demandé de manger. Et notre papa, notre maman et nous les enfants. Tout le monde devait manger la poule qui était dans l'assiette. Et on a mangé, après avoir mangé, il a interdit à ce que personne ne broie les os de la poule. Après avoir mangé, il n'y avait même pas de la semoule pour accompagner la poule. Il n'y avait rien, pas de frites, pas de pain, rien. Après, ils ont récupéré les os de la poule. Ils ont encore creusé un trou et ils ont enterré les os de la poule. Après quoi, ils ont fait des tatouages sur ma mère. Et après, ils sont partis, disant que c'est fini, il y aura la guérison. Écoutez-moi bien. Quand ils sont partis, après quelques temps, il y avait la guérison entre guillemets. J'insiste, entre guillemets. Bien-aimés, quelques années après, nous sommes, ça c'était dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, et précisément à Goma. Et après, nous sommes rentrés à Kinshasa, on n'avait pas de traces de ces féticheurs, bien-aimés. On n'avait pas de traces de ces féticheurs. 3 ans après, bien-aimé, 3 ou 4 ans après, nous nous sommes levés. Maintenant, à Kinshasa, les choses-là se sont passées à l'est de la RDC. 3 ou 4 ans après, nous étions dans la capitale à Kinshasa. En se réveillant le matin, nous avons trouvé 3 œufs. Les œufs de poule. Nous avons trouvé 3 œufs emballés dans un sachet jeté dans la parcelle. Et sur 3 œufs, il y avait un œuf qui était cassé. En se réveillant, nous nous sommes posé la question, mais qui a jeté ces œufs? Parce que la portail était fermée. Mais qui a fait ces choses? Pendant que nous étions en train de nous poser la question, il y avait une maman qui était en face de nous. Donc, sa parcelle était juste en face de nous. La maman dit, j'ai vu vers 5 heures du matin un monsieur qui était venu, il se cachait et il a jeté un truc dans votre parcelle. Et elle a décrit la personne et nous avons compris que c'était ce féticheur-là qui était venu il y a plus de 3 ans à l'est de la RDC. Il nous a suivis jusqu'à Kinshasa. On ne savait même pas comment est-ce qu'il a su que nous habitions dans ce quartier-là. Bien-aimé. Il avait jeté 3 œufs et un œuf était cassé. Maintenant, nous nous sommes dit, mais c'est ce monsieur-là. C'est Dizozi, parce qu'il s'appelait Dizozi. Bien-aimé dans le Seigneur, après quelques temps, mon frère aîné est tombé malade. On l'amena à l'hôpital. Il est rentré. Les choses commençaient à se compliquer. On ne savait pas diagnostiquer de quoi il souffrait. Et après, puisqu'on ne voyait rien dans les cliniques, la clinique universitaire et dans tous les hôpitaux, les grands hôpitaux de Kinshasa, on n'a rien vu et il est mort. Bien-aimés, souvenez-vous que les féticheurs avaient jeté 3 œufs et un œuf était cassé. Et l'œuf représente la vie. Donc les féticheurs avaient programmé la mort de 3 personnes. Imaginez-vous et n'oubliez pas que lorsqu'il avait préparé la poule, quand nous étions encore à l'est, il avait enterré le sang de la poule et les os. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, il avait déjà condamné ces 3 personnes-là lorsque nous étions encore à l'est, quand nous avions mangé la poule. Bien-aimé, vous savez, lorsque les féticheurs vous font manger des choses, il peut te faire manger ta propre femme, il peut te faire manger ton propre fils, il peut te faire manger ton parent, ton père, ta mère. Mais toi, tu crois que je suis en train de manger cette chair pour ma guérison ou pour ma solution. Or, il te fait manger la chair humaine. Parce que eux, ils ont la capacité diabolique dans leur monde de ténèbres pour transformer la chair de la poule en chair humaine ou la chair de la chèvre en chair humaine. Et mon grand frère était mort à cause de cet œuf-là qui était cassé. Et ce n'était que par la grâce de Dieu, quoique nous ne le connaissions pas encore, que les 2 œufs n'étaient pas cassés. Parce que ces œufs représentaient la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que le féticheur vous a fait manger? Combien de fois il vous a fait des incisions? Combien de fois, bien-aimés, il vous a fait des tatouages? Et quel est le produit qu'il a mis dans votre corps lorsqu'il t'a fait des tatouages? Parce qu'ils viennent toujours avec un produit, une poussière là, la poussière noire, pour appliquer là où ils ont fait des incisions. En fait, c'est pour sceller les pactes de sang. Et aujourd'hui, tu te retrouves que ton âme est enfermée parce que tu avais mangé la nourriture préparée par les féticheurs, par les marabouts, la nourriture préparée par ces gens-là. Et en mangeant cela, bien-aimés, ils font tout pour vous initier dans la sorcellerie inconsciente, voire même consciente. Et à ce niveau-là, l'âme devient prisonnière. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne les prends pas à la légère, bien-aimé. Ne dites pas que j'avais mangé, ça fait longtemps, c'est fini. Oh bien-aimé, je connais un papa, un monsieur. Son père était mort au village. Et quand son père était mort, il fallait que les responsables que la famille avait choisi se déplacent de la capitale jusqu'au village de son père. Et les responsables qu'ils avaient choisi, ce n'était même pas l'aîné de la famille. Ils ont choisi selon leur choix dans les ténèbres. Et la personne s'est déplacée. Il arrive dans le village. On lui dit, attends, puisque ton père est mort, c'est toi qui dois remplacer. C'est toi qui dois prendre la direction de la famille. Nous devons te consacrer chef de famille. Et pour cela, il faut qu'il y ait des cérémonies. Alors le monsieur était là, il ne connaissait rien. On ne lui a même pas dit à quand la cérémonie en question. Et au milieu de la nuit, À minuit, on vient les réveiller pendant qu'il faisait très noir dans le village parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans ce village-là. On appelle les messieurs. Lorsqu'ils se réveillent, en sortant, ils trouvent que tout le village était là. Les gens qui battaient la tam, le tam-tam, les gens qui dansaient, ils criaient et ils étaient autour d'un feu. Maintenant, ils ont pris la poule. Après avoir étouffé la poule, ils ont récupéré, c'était les coqs. Les coqs. Après avoir étouffé les coqs, ils ont récupéré la tête du coq, telle que la tête était là. Après avoir préparé du foufou, c'est comme la semoule, ils ont pris la tête du coq, ils l'ont emballé, donc ils ont entouré cette tête-là par le foufou, là, la semoule. Et maintenant, ils demandent à ce monsieur qui devait succéder à son père d'avaler ses foufous avec la tête du coq. Le monsieur dit, non, je n'ai jamais mangé ça. Et ce n'est pas cuit, je ne peux pas. On lui dit, tu dois le manger parce que c'est toi le chef. Et comme il ne voulait pas, on l'a forcé et il a avalé et les foufous et la tête du coq. Bien aimé, ces histoires se sont passées. Le monsieur a quitté le village, il est rentré dans la capitale. Et 14 ans après, le monsieur a connu le Seigneur. Il a commencé à prier, à prier, à prier. Un jour, pendant qu'on était en train de faire la délivrance, le monsieur a senti une douleur terrible dans son ventre. Il court vite à la toilette et quand il fait les besoins là, la tête de la du coq est sortie. Alléluia. Bien-aimé, 14 ans après. 14 ans après, est-ce que vous pouvez imaginer ces choses? 14 ans après, même un médecin ne peut pas démontrer comment est-ce que ces choses pouvaient se passer. C'est inexplicable. Donc, ce que vous faites maintenant, ou ce que vous avez fait, a des conséquences terribles dans votre âme. Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir, puisque nous parlons de la formation des gagnères d'âmes, nous allons commencer par voir l'origine du gagnère d'âmes. C'est le troisième grand point. Troisième point, l'origine du gagnère d'âmes. Vous êtes appelés à gagner les âmes. Quoique vous-même, vous êtes malade dans votre âme. Mais avant de gagner les âmes, il faut d'abord que votre âme soit guérie. Et la personne qui peut guérir votre âme, c'est Dieu. Mais vous avez aussi besoin de l'aide des hommes de Dieu pour cela. N'oubliez pas. Et lorsque vous vous retrouvez, ne négligez rien, bien-aimé. Même les plus petites choses, ne négligez rien. Écrivez-les quelque part. C'est pour votre bien. Et cherchez la face de Dieu pour cela. L'origine du gagnère d'âme. Nous allons lire Genèse chapitre 7, verset. Genèse chapitre 3, verset 7 à 11. Genèse chapitre 3, verset 7 à 11, je lis pour la gloire de Jésus-Christ, il est écrit, « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Bien-aimé, il s'agit ici d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont désobéi au commandement de Dieu. Ils sont arrivés à manger les fruits de l'arbre que le Seigneur leur avait défendu. Parce que le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux du champ a pris Ève en mouvement et Ève qui a cédé et Ève a donné aussi le fruit à son mari qui était auprès d'elle et monsieur Adam a mangé. Maintenant, bien aimé, après avoir mangé le fruit, la Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Bien-aimé, la Bible dit, après avoir mangé les fruits, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent. Et maintenant, la plus grande question à poser, est-ce qu'avant que Adam et Ève ne mangent les fruits, étaient-ils aveugles? Parce que la Bible dit, après avoir mangé les fruits, leurs yeux se sont ouverts. Est-ce qu'ils étaient aveugles avant de manger les fruits? J'ai dit non. Ils voyaient. Mais qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu dit, après avoir mangé les fruits, leurs yeux se sont ouverts? Bien-aimés, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts. Lorsque vous désobéissez à Dieu, lorsque vous faites quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, lorsque vous vous engagez dans des choses telles que ce que je venais de dire maintenant, dans le fétichisme, dans le pacte de sang, dans le pacte diabolique, bien aimé, une voie s'ouvre dans votre vie. Une voie spirituelle, mais la voie des ténèbres s'ouvre pour vous. Et ça ne s'ouvre pas seulement pour vous, mais vous mettez aussi en danger toute votre descendance et votre famille. Les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts lorsqu'ils ont mangé les fruits. C'est-à-dire lorsqu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, leurs yeux se sont ouverts dans le mal. Les yeux se sont ouverts. Et Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Bien-aimés, lorsque vous commettez le mal, vous devenez nus. C'est-à-dire, vous perdez votre force. Vous perdez la puissance que le Saint-Esprit a mis en vous. Vous perdez votre pouvoir. C'est comme un frère, un chrétien. Un chrétien qui tombe dans l'impudicité, bien-aimé, lorsqu'il ne veut pas dévoiler ce qu'il a fait, il devient nu, il devient faible et il devient esclave des mensonges. Parce qu'il doit tout faire pour mentir afin de couvrir sa nudité, afin de couvrir les mauvaises choses, les mauvaises actions qu'il commet. Il fera tout pour couvrir sa nudité. Bien-aimés, Adam et Ève ont péché et se retrouvent nus. Alors, lorsque vous commettez le péché, bien-aimés, vous devenez nus spirituellement. Mais lorsque vous devenez nu, ne vous comportez pas comme Adam et Ève. Parce que Adam et Ève ont tout fait pour cacher leur nudité. Ils ont tout fait pour cacher leur péché. Et la Bible dit qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Ça, c'est le grand problème, bien-aimé. Un gagneur d'âme doit savoir ces choses. Lorsqu'une personne pêche, il fait tout pour s'éloigner le plus possible de Dieu. Le diable le pousse à s'éloigner de Dieu. La Bible dit, lorsque Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus, ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Donc le diable te pousse maintenant à t'éloigner des serviteurs de Dieu. Il te pousse à t'éloigner de l'église de Dieu. Il te pousse à t'éloigner de l'endroit où on parle de Dieu. Il te pousse à t'éloigner, oui, de tous les sites chrétiens. Il te pousse à t'éloigner de la radio-cité de Dieu. Il te pousse à t'éloigner de tous les lieux où on parle de Dieu. Et vous verrez une telle personne, puisqu'il a des problèmes dans son âme. Parce que vous savez, bien aimé, la Bible dit, Dieu insouffla, quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7, la parole de Dieu déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insouffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Quand Dieu a insufflé, il a formé l'homme de la poussière de la terre, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie, l'homme Adam est devenu une âme vivante. Adam, le mari de Ève, était une âme vivante. Retenons ceci. Adam, le mari de Ève, était une âme vivante. Nous lisons aussi 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous lisons pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 15, 45. Il est écrit... C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Je reprends 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, on nous parle de deux Adam. Le premier Adam qui est Monsieur Adam, le mari de Ève, et le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Alors, le premier Adam, Adam, mari de Ève, était une âme vivante. Mais Jésus-Christ, le deuxième Adam, est devenu un esprit vivifiant. Rappelez-vous, au début de notre formation, nous avons dit, c'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Lorsque l'esprit est debout, lorsque la personne marche dans la sanctification, l'esprit est debout, il contrôle l'âme et le corps. Et là, il n'y a pas moyen que l'âme puisse déconner parce que c'est l'esprit qui contrôle tout. L'esprit étant en contact permanent avec Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation, la parole de Dieu et dans la sanctification, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Et lorsque l'esprit est éteint, lorsque l'esprit est étouffé, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'âme qui reprend le contrôle, c'est l'âme qui reprend les choses en main. Et en ce moment-là, l'âme étant la partie immatérielle, l'âme étant le centre des émotions, des pensées positives, négatives, les diables se servent de l'âme pour contrôler l'homme et la vie de cette personne sera détruite. Même les gens qui sont autour de cette personne sont en danger. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Adam, le mari de Ève, était une âme vivante. Ça s'explique pourquoi Adam est tombé. Adam et Ève sont tombés, la Bible dit qu'ils étaient des âmes vivantes. Mais Jésus-Christ est le deuxième Adam, est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie, un esprit qui vivifie, un esprit qui sauve, un esprit qui délivre, un esprit qui est en contact permanent avec Dieu. Jésus de Nazareth, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il est resté obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là où Adam, le mari de Ève, avait désobéi, là où Adam et Ève, âme vivante, avaient désobéi, Jésus-Christ s'est humilié. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Il est resté obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il l'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé Adam, lorsqu'il a péché, la Bible déclare, il est allé se cacher, lui et sa femme Ève, loin de la face de l'Éternel. Ils sont allés se cacher, loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est la première réaction de toute âme qui pêche. Ça, c'est la première réaction de toute âme qui pêche. Vous savez, bien-aimé, je sais de quoi je vous parle. Moi-même, quand j'ai connu le Seigneur, la première fois, il fit un moment, j'étais tombé, donc je suis revenu, comme on dit en lingala, na pengwaki. Et quand, bien-aimé, je suis tombé, pas en impudicité, je suis tombé, c'est-à-dire j'avais repris la vie des péchés. Bien-aimé, j'avais peur même d'ouvrir ma bouche pour prier, parce que je me disais que si j'ose seulement ouvrir ma bouche pour prier, Dieu va me frapper, Dieu peut me tuer. J'avais peur. Quand je me suis vu que je suis retourné dans la vie, quand j'étais retourné dans la vie de péché, bien-aimé, j'avais peur de prier. Alors la solution était de continuer toujours dans le péché et de ne pas prier, parce que je me disais que si je prie, Dieu va me frapper. Bien-aimé, ça c'est le diable qui te ment. Ça c'est le diable qui ment. Tu vois ici Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Donc quand tu pêches, le diable fait tout pour t'éloigner le plus possible de la bergerie. Il t'éloigne le plus possible de l'église. Il t'éloigne le plus possible des serviteurs de Dieu. Il s'éloigne le plus possible des gens qui prient, parce qu'il sait que si tu entres encore en contact avec ces gens-là, tu risqueras de te reconvertir et de rentrer sur le bon chemin. Lui, il sait déjà qu'il ira en enfer. Il sait qu'il ira, lui, en enfer. Voilà pourquoi il ne veut pas y aller seul. Et il te fait croire que si tu rentres, Dieu peut te frapper, Dieu peut te tuer. Non! Dieu est amour. Il a besoin de toi, quel que soit ton péché. Rentre! Dieu a besoin de toi, quel que soit ton péché. Rentre! Viens encore, humilie-toi, agenouille-toi, il va t'accepter, il t'accepte tel que tu es, rentre dans la maison. Alléluia. Jésus, voilà, après avoir mangé les fruits, Adam et Ève sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Et ça, c'est l'œuvre du malin, ça c'est l'œuvre du diable, ça c'est l'œuvre des démons. Alléluia. Je vais encore relire, bien-aimé, les versets 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés, Adam et Ève sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. C'est ça, bien-aimés. Toi aussi, tu es dans le même cas. Ce qui t'arrive aussi aujourd'hui m'est arrivé dans le temps. Ce qui t'arrive aujourd'hui est arrivé à Adam et Ève. Adam et Ève, c'était eux les chefs dans les jardins de Dieu, dans les jardins d'Éden. Dieu les avait établis. C'était eux les responsables. C'était eux qui devaient faire rapport à Dieu de tout ce qui se passait. Dieu les avait établis responsables dans les jardins de Dieu, dans les jardins d'Éden. Dieu les avait établis. Mais lorsque le serpent est arrivé avec la ruse, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à la mission de Dieu. Ils ont désobéi à la vision de Dieu. Et ils ont mangé les fruits. Après avoir mangé les fruits, bien-aimés, ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Toi aussi, bien-aimé, Dieu t'avait établi comme Adam et Ève. Il t'avait établi évangéliste. Il t'avait établi pasteur. Il t'avait établi prophète. Il t'avait établi apôtre. Il t'avait établi docteur. Il t'avait établi gagneur d'âme. Il t'avait établi sœur en Christ, frère en Christ. Mais aujourd'hui, tu as mangé les fruits. Je ne sais pas quel fruit tu as mangé. Adam et Ève avaient mangé les fruits que le Seigneur leur avait défendu. Mais toi, je ne sais pas ce que tu as mangé. Peut-être tu as mangé les vols. Peut-être tu as mangé les fruits de la polygamie. Peut-être tu as mangé les fruits de l'adultère. Peut-être tu as mangé les fruits, je ne sais pas moi, quel fruit tu as mangé. Et aujourd'hui, tu as peur de rentrer à l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu as peur des serviteurs de Dieu. Tu t'éloignes le plus possible. Ce n'est pas toi. C'est le démon qui t'éloigne. C'est le diable qui t'éloigne parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Il veut que tu meurs. Il veut que tu puisses mourir. Rentre à la maison. Rentre. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Pourquoi mourras-tu dans cet état? Pourquoi mourras-tu dans les péchés? Pourquoi mourras-tu dans la sorcellerie? Pourquoi mourras-tu? Pourquoi veux-tu mourir dans cet état-là? Prends la décision aujourd'hui. Ne meurs pas dans cet état. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste, Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dieu dit, il n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Ce qu'il veut, c'est que les pécheurs se convertissent et qu'ils vivent. La volonté de Dieu est que les pécheurs se convertissent et qu'ils vivent. Dieu veut que tu puisses te convertir, bien-aimé, et que tu puisses vivre. Répands-toi, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'écoutent maintenant. Toi, tu connaissais Dieu depuis longtemps, tu servais Dieu, tu chantais pour Dieu, tu prêchais même, bien-aimé dans le Seigneur, tu servais Dieu, tu donnais ton argent à l'église de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu as un problème qui est survenu dans ton église, entre toi et les responsables, tu as abandonné le chemin de Dieu et maintenant tu as fui loin de la face de l'Éternel. Toi, tu voyais seulement ces serviteurs-là. Non, c'est le diable qui avait voulu te récupérer. Et toi, tu ne voyais que les erreurs de ces serviteurs de Dieu. Et à cause de ça, tu as fui les chemins de Dieu. Tu as fui, bien-aimé. Rentre, humilie-toi. Repends-toi. Demande pardon. Demande pardon. Humilie-toi. Dieu a besoin de toi. Ce qu'il veut, c'est que les pécheurs se convertissent et qu'ils vivent. La volonté de Dieu est que tu puisses te convertir et que tu vives. Toi qui te retrouves dans cet état, même si tu es tombé, sœur en Christ, écoute-moi, sœur en Christ, même si tu es tombé avec un serviteur de Dieu, ce que tu as fait, c'est mal, c'est mauvais, c'est une abomination. Mais rentre sous le pied de Jésus, humilie-toi, répands-toi. Va voir les serviteurs de Dieu, va voir les autres serviteurs de Dieu, répands-toi. Humilie-toi, cherche la face de Dieu, rentre sous le pied de Jésus. Il a besoin de toi. Il ne veut pas que tu puisses mourir. Parce que si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Rentre. Et toi aussi, serviteur de Dieu, si tu es tombé, relève-toi, ressaisis-toi. Ne regarde pas tout cela. Maintenant, le diable est en train de te faire voir que c'est la honte. Ne rentre pas, tout le monde va savoir. Il vaut mieux que tout le monde sache ce que tu as fait et que tu t'humilies devant Dieu pour que Dieu te pardonne. N'aie pas honte des hommes, mais souviens-toi de ton Créateur. Lui qui est capable de te donner le souffle de vie ou de retirer le souffle de vie. Il t'aime encore. Il dit, mon fils, je t'aime. Il dit, ma fille, je t'aime, tel que tu es, rentre. Adam et Ève sont allés se cacher loin de la face de Dieu, bien-aimés. Eux qui étaient responsables dans le jardin d'Éden. Eux qui servaient Dieu dans le jardin de Dieu. Je ne sais pas ce que tu faisais dans ton église ou dans ton ministère. Je ne sais pas ce que tu faisais pour Dieu. Mais aujourd'hui, tu es tombé comme Adam et Ève et tu as fui. Tu es maintenant loin de la face de Dieu. Vous savez, bien-aimé, lorsque quelqu'un qui connaissait le Seigneur tombe, quand vous remarquez que quelqu'un qui connaissait le Seigneur tombe, lorsque vous venez pour le parler de la part de Dieu, pour partager la parole de Dieu avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lui donnez un verset, il vous en donne un autre. Lorsque vous lui donnez un verset, il vous donne encore un verset. Donc, il fait tout pour vous faire croire qu'il n'est pas tombé. Là, la personne est déjà dans l'erreur. Lorsque Dieu est venu vers Adam, bien-aimé, il a commencé à demander à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Donc, tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais défendu. Il dit, la femme que tu avais mis à côté de moi, c'est elle qui m'a donné, j'ai mangé. Donc, Adam voulait se justifier. Comme il connaissait déjà que c'est Dieu qui avait mis Ève à côté de lui, maintenant, il dit que c'est la femme. Donc, il veut encore condamner Dieu et Ève. Donc, voilà comment ça se passe. Vous venez pour parler de quelqu'un qui connaissait le Seigneur et qui a quitté le chemin du Seigneur. Vous lui parlez de Dieu. Il vous donne des raisons, même dans la Bible. Bien-aimé, je sais que vous le faites. Si vous le faites, bien-aimé, voilà, Dieu t'aime. Il t'envoie encore cette parole. Il t'envoie encore cette parole. Répands-toi. Il y a même des gens, ils servent Dieu. Mais il est arrivé que dans son bureau, il est tombé avec une serre. Et il est en train d'entretenir ce péché-là. Bien-aimé, tu peux mourir. Répands-toi. Ne cache pas ce que tu as fait. Ne sois pas comme Adam. Je parle de ces choses, bien-aimés. Je parle de ces choses parce que Adam était responsable dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas l'éléphant qui était responsable. Ce n'était pas le lion. Ce n'était pas, bien-aimés dans le Seigneur, le crocodile. Quelle que soit leur grandeur, leur force, c'est Adam qui était responsable. Et ce message d'Adam concerne aussi les responsables. Donc, si tu étais responsable comme Adam dans les jardins que Dieu t'avait établis, je ne sais pas quel est le jardin que Dieu t'avait établi. Le jardin, ça peut être ton église, ça peut être ton ministère, ça peut être le département de l'église qu'on t'avait confié. Ça peut être aussi le département d'évangélisation, tu étais chargé d'évangélisation. Ça peut être le département, je ne sais pas moi, de papa ou de maman. Ça peut être le département de partenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, rentre sous les pieds de Jésus, humilie-toi. Ne fuis pas, ne fais pas comme Adam et Ève. Ils ont fui, ils sont allés se cacher au milieu des arbres, loin de la face de l'Éternel. Humilie-toi. C'est ton âme qui est malade, qui te pousse à fuir loin de la face de l'Éternel. Lorsque quelqu'un pêche, bien-aimé, son âme devient malade. C'est son âme qui souffre et son âme lui dit, n'approche pas. Ne t'approche plus de ces gens-là. Ça, c'est l'âme malade, bien-aimé. Alors, écoutez, bien-aimé. Maintenant, écoutez. Je vais encore lire. Toujours dans Genèse chapitre 3. Toujours Genèse chapitre 3. Je vais encore commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Écoutez, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la question qu'un enfant de Dieu doit se poser chaque jour, chaque heure, chaque minute, partout où il se trouve. La Bible nous dit ici, quand bien même qu'Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, quand bien même qu'ils avaient mangé les fruits, ils sont allés se cacher au milieu des arbres, loin de la face de Dieu. La Bible nous dit ici, Dieu parcourait les jardins. Dieu est venu à la recherche d'Adam et Ève. Suivez-moi bien, bien-aimé. Dieu avait donné un commandement à Adam de ne pas manger le fruit de cet arbre. Adam et sa femme, Ève, ont désobéi. Ils ont désobéi, ils ont mangé les fruits. C'est-à-dire, ils ont péché contre Dieu. Et c'était un manquement grave. J'ai dit, c'était un manquement grave. Parce qu'ils savaient que Dieu avait dit, vous ne pouvez pas manger de ces fruits. Et ils ont mangé un manquement grave. Et Dieu savait que c'était un manquement grave, c'était un péché. Dieu pouvait être irrité contre Adam et Ève pour dire, toi tu sais, tous ces animaux et ces plantes qui existent, c'est toi qui as donné le nom à tout ceci, même les serpents, c'est toi qui as donné le nom, parce que c'est à toi que j'avais confié cette tâche-là, de donner le nom à toutes les créatures. Donc, je suppose que tu devais connaître leur comportement, leur caractère. Et maintenant, toi, tu te laisses séduire par cet animal que toi-même tu as donné le nom. Adam, moi, je ne te comprends pas. Comment est-ce que tu pouvais agir comme ça? D'ailleurs, je te rejette.
Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a commencé à parcourir les jardins à la recherche d'Adam et Ève. Ils cherchaient Adam pour prouver qu'ils cherchaient Adam. Bien-aimés, écoutez le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Bien-aimé,
Ça, c'est ce qu'un gagneur d'âme doit faire. Quel que soit le mal ou le péché de l'âme, quelles que soient les erreurs que tes collaborateurs ont fait, quelles que soient les erreurs que les fidèles ont commis, toi berger, toi pasteur, toi évangéliste, toi missionnaire, ce que tu dois faire, toi disciple de Jésus, ce que tu dois faire, c'est d'aller vers cette âme-là qui est perdue. Adam avait commis un manquement grave vis-à-vis de Dieu parce qu'il avait désobéi à l'ordre de Dieu lui-même. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Il avait désobéi à l'ordre de Dieu lui-même. C'était un manquement grave. C'était la désobéissance vis-à-vis de Dieu lui-même. Mais Dieu, au lieu de repousser Adam, Dieu, au lieu de rejeter Adam, Dieu, au lieu d'abandonner Adam, la Bible dit, il est venu chercher l'homme. Écoutez, il a appelé l'homme. Où es-tu? Ah! Quelqu'un qui t'a causé du tort. Quelqu'un qui t'a insulté. Quelqu'un qui t'a humilié. Quelqu'un qui t'a minimisé. Quelqu'un qui a craché sur toi. Allez encore le chercher. Ah! Allez encore chercher une telle personne. Le pardonner. L'embrasser encore. Le porter encore dans les bras. Jamais, comme disent beaucoup de responsables. Bien-aimé, Dieu étant que responsable, il n'a pas rejeté Adam. Il n'a pas abandonné Adam et Ève. Il ne les a pas oubliés. Oh! Il ne les a pas jetés dans les oubliettes. Lui-même est descendu pour chercher Adam et Ève. Il appela Adam encore. Adam, où es-tu? Jésus-Christ a dit, si tu as 100 brebis, et qu'une brebis se perd, ce que tu as à faire, c'est de laisser d'abord les 99, et toi, berger, tu dois aller chercher une brebis qui était perdue. Bien-aimé, parce que les 99 là qui est toujours avec toi, eux, ils savent que nous devons craindre Dieu. Même si nous commettons les péchés, mais nous devons toujours être sous le pied de Jésus pour chercher la sanctification. Et ils sont là, ils ne fuiront pas. Mais cette seule brebis, une seule brebis qui a quitté le chemin, toi le berger, toi le responsable de l'église, toi le responsable, je ne sais pas, de quel groupe de gens ou d'un tel ministère, ce que tu dois faire, c'est d'aller d'abord chercher cette brebis-là qui est perdue. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est allé à la recherche d'Adam. Dieu est allé à la recherche de Ève. Et il appela l'homme. Où es-tu? Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ah, il veut marcher dans cette voie. Ça lui regarde. Hein? Moi, je n'ai pas de problème. Hein? Il était ici dans l'église et maintenant, il aime la polygamie, il aime l'impudicité. Qu'est-ce que moi je vais en faire? D'abord, c'est un faux frère. C'est une fausse sœur. Et vous avez commencé à surnommer la personne. Au lieu d'aller à la recherche de cette personne, comme Dieu est allé chercher Adam, tu rejettes la personne et si tu graves encore, tu le surnommes. Tu la surnommes. Et tu ne sais pas que Dieu dit dans sa parole, il n'aime pas la mort des pécheurs. Et toi, tu le sais. Mais pourquoi tu ne peux pas t'humilier pour aller chercher cette âme? Regardez un peu Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le patron de tout ce qui existe, lui Dieu. avec toutes ses fonctions et ses grades, Dieu s'est humilié. Lui, Dieu, bien-aimé, il n'est même pas comparable à un roi de la terre. Il n'est même pas comparable à un président d'un quelconque pays. Il n'est même pas comparable à toi qui crois que tu es élevé. Mais Dieu s'est humilié, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est allé dans le jardin, dans les arbres, pour chercher Adam. Est-ce que toi, tu peux aller chercher une âme dans la forêt? Parce que Adam et Ève étaient cachés sous les arbres, dans les arbres, loin de la face de Dieu. Donc, la Bible dit qu'ils étaient loin, loin de la face de Dieu. Donc, il est allé loin. Est-ce que toi, tu peux aller le plus loin possible pour chercher une âme qui était perdue? Si tu ne le faisais pas, si tu ne le fais pas, ou si tu ne le faisais pas, répands-toi. Ces âmes-là ont besoin de Jésus. Ces âmes-là ont besoin de Jésus. Et Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il puisse mourir pour ces âmes que tu négliges. Oh Jésus! Il ne faut pas négliger les âmes, bien-aimés. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas négliger les gens. Dieu a donné son Fils unique. Il n'avait qu'un seul Fils, Jésus. Il l'a donné pour sauver cette âme. Et toi, tu te joues, tu es en train de jouer avec les âmes de Dieu. Toi, un homme, tu n'as même pas le niveau de Dieu. Dieu qui est Dieu, qui m'a créé, qui t'a créé, qui nous a créé, s'est humilié. Et pourquoi pas nous, bien-aimés? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? L'orgueil, ce n'est pas bien, bien-aimés. L'orgueil, ce n'est pas bien. Cherchons les âmes. Cherchons les âmes. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était dans le monde, dans ce monde, bien-aimé, Jésus faisait des surprises terribles. Les gens de l'époque étaient surpris. Imaginez Jésus-Christ, fils de Dieu, qui se rend dans la maison de Lévi. C'était un scandale. Personne ne pouvait comprendre ces choses. Jésus dans la maison de Lévi. Jésus dans la maison des gens de mauvaise vie. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il est resté obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Pasteur, prophète, berger, pourquoi pas t'humilier? Missionnaire, pourquoi pas t'humilier pour aller chercher ces âmes-là? Jésus-Christ allait même dans la maison des gens de mauvaise vie pour chercher à gagner leurs âmes. Un gagneur d'âme s'humilie lui-même. Il fait tout pour aller chercher les âmes, même dans leur maison. Alléluia. Ça, c'est la vision de Jésus-Christ. Ça, c'est la vision de Jésus-Christ. Jésus faisait ces choses parce qu'il voulait que nous puissions suivre son exemple. Jésus faisait cela parce qu'il voulait que nous puissions nous humilier nous aussi. Vous savez, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, il m'est arrivé. Je voyais des fois mes enfants que j'ai formés. Par la grâce de Dieu, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce. Je prêchais la personne. Je lui ai parlé de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit touche son cœur. Il accepte le Seigneur Jésus dans sa vie. Le Seigneur me fait grâce d'enseigner la personne. Et la personne commence à connaître la parole de Dieu, commence à prier, à jeûner, à prêcher même. Et il est arrivé des fois, mes propres enfants spirituels, qui se moquait de moi. Il me manquait du respect. Et un jour, pendant que j'étais en train de conduire mes enfants à l'intercession nous étions dans la chambre haute, dans la permanence de l'église. Un parmi ces enfants-là, puisque tout le monde était à genoux et moi-même j'étais à genoux dans l'intercession, on priait et on tournait sur le lieu à genoux. Il était fâché. Il s'est levé en pleine prière. Il a claqué la porte. Il est parti. Et il a fait 3 jours. Il ne venait plus à la réunion. Et il ne voulait même pas me voir. Je pouvais dire, moi, je conduis la prière. Et lui, que je prêchais, il ne connaissait pas Dieu. Il commence à prêcher maintenant. Et il claque la porte en pleine prière. Il part. Ah, qu'il s'en aille. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur avait mis en moi la compassion en faveur de cette âme, de ses frères. Le Seigneur avait mis en moi la compassion de cette âme. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et je me rappelle, une nuit, j'ai beaucoup prié pour lui. Et très tôt le matin, vers 5h30, je suis sorti pour aller chercher ses frères. Là, il était encore chez ses parents. Je suis allé et j'ai trouvé qu'il dormait encore. Tout le monde dormait et j'ai toqué à la porte. Lorsque j'ai frappé à la porte, la maman de ses frères est venue ouvrir la porte. Je lui ai dit, maman, excusez-moi, est-ce que je peux voir frère tel? La maman qui me dit, il dort encore, attends, je vais le réveiller. La maman est allée réveiller les frères en question. Et lorsque le frère a vu que c'était moi, il venait de se réveiller, il était irrité parce qu'il ne voulait pas me voir. Mais moi, j'ai accueilli les frères avec amour. Je lui ai demandé si on pouvait prier. Et j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur qui a protégé ses frères ainsi que toute sa famille toute la nuit. J'ai remercié le Dieu qui lui a accordé le souffle de vie ainsi que sa famille et moi. Et après, j'ai commencé à dire à ses frères, je suis venu te demander pardon. J'ai dit aux frères, je suis venu te demander pardon. C'est moi qui ai mal agi. Pardonne-moi. Mais c'est que je veux que tu rentres encore. Je veux que tu rentres. Je te demande pardon. Pardonne-moi, j'ai mal agi. Bien-aimé, en réalité, c'est lui qui avait mal agi parce qu'en pleine prière, il est sorti, avec colère, il a claqué la porte. Mais pour gagner son âme, pour ne pas perdre son âme, puisque lui ne comprenait pas encore les choses de Dieu, c'est moi qui me suis humilié et j'ai demandé pardon à ses frères, mon fils spirituel. Et le frère, puisqu'en ce moment-là, il ne comprenait rien, il était très content de voir que son père spirituel venait de s'humilier devant lui. C'était une victoire pour lui. Gloire au Seigneur. C'était une victoire pour Jésus, parce que ce frère-là est rentré sur le bon chemin. Aujourd'hui, je vous parle, il est serviteur de Dieu. Il sert Dieu. Oh, bien-aimé, voilà comment est-ce que Dieu a agi vis-à-vis d'Adam et Ève, qui ont fui loin de la face de l'Éternel. Ils sont allés se cacher, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, les âmes ont beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs sortes des âmes bien-aimées dans le Seigneur. Pour être gagneur d'âmes, il faut connaître les sortes des âmes, les maladies de l'âme. Les maladies des âmes diffèrent d'une âme à l'autre. Vous pouvez avoir devant vous 10 âmes, mais les 10 âmes ne peuvent pas avoir la même maladie. Sur 10 âmes, vous pouvez avoir 8 maladies différentes. Donc, 7 maladies, je veux dire, sur 10 âmes, vous pouvez avoir 8 maladies différentes, c'est-à-dire, sur 10, vous pouvez avoir 8 qui ont, vous pouvez avoir 8 qui ont différentes maladies, ou 6 qui ont différentes maladies, et 4 autres qui ont une seule maladie. Donc, la maladie de l'âme, bien aimée dans le Seigneur, diffère d'une âme à l'autre. Mais n'oubliez pas que nous avons dit que la maladie de l'âme est contagieuse. Donc, j'insiste sur le fait qu'un berger ou un frère ou sœur en Christ ou quelqu'un qui sert le Seigneur est appelé à s'humilier comme Dieu pour aller chercher les âmes perdues, pour aller chercher les âmes. Même s'il t'a insulté devant tout le monde, humilie-toi, va les chercher. Moi, je suis allé chercher par la grâce de Dieu, mon frère là. Aujourd'hui, je suis fier de parler de ces choses afin de glorifier le nom de Jésus. Ce bien-aimé est devenu serviteur de Dieu aujourd'hui. Il sert Dieu. Et il venait même de se marier. Il s'est marié avec une sœur. Il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Mais si j'avais dit, comme il a claqué la porte, qu'il reste dans cette position, je n'irais pas le chercher. Ses frères allaient peut-être mourir. Bien-aimé, quel que soit le mal que les gens vous ont causé, pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît, humilie-toi, va chercher la personne. Même s'il ne veut pas te recevoir, commence par prier pour lui, comme moi j'avais fait. Je commençais par prier pour ses frères. Et après avoir prié pour lui, pendant la nuit, le Seigneur qui me touche, et je suis sorti de chez moi, c'était 5h30. Et je suis allé chercher les frères. Et ce n'était pas la seule fois. Je me rappelle même un papa qui m'avait dit, parce que son fils, il était impudique, il se promenait avec des condoms, avec des préservatifs. Donc lui, il avait dans la maison des paquets et des paquets de préservatifs. Chaque jour, il prenait une boîte de 5 préservatifs. Il sortait avec 5 préservatifs chaque jour. Avant de sortir, il prenait une petite boîte de préservatifs qui avait 5 préservatifs. Et il prenait un papier duplicateur vierge avec un stylo. C'est comme ça qu'il sortait tous les jours de sa vie. En fait, les papiers, c'était pour noter les noms et les adresses de toutes les filles qu'il devait aimer pendant la journée. Et chaque jour, il s'arrangeait pour avoir un papier duplicateur vierge avec un stylo. Et c'était ça son travail de tous les jours. Et les 5 préservatifs qu'il prenait chaque jour, c'était pour utiliser. Donc, il visait au moins 5 filles par jour. Et il m'a même dit, plusieurs fois, il lui arrivait d'aimer la fille le même jour et il tombe avec dans l'impudicité. Il couche avec. Et c'était ça sa vie. Une sale vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'ai apporté la parole de Dieu à ses frères. Parce que, bien aimé, mon travail consistait à gagner les âmes. J'étais le responsable de l'évangélisation dans mon église, à l'époque. Et j'ai apporté la parole de Dieu à ses frères. Le frère a reçu le Seigneur Jésus. Maintenant, il a abandonné toutes ses voies. Il a apporté les boîtes de préservatifs qu'il avait. Il a tout apporté. Et les anciens cassettes audio qui ne glorifiait pas Dieu dans sa vie, il a tout apporté et nous les avons brûlés. Et le frère s'est converti, il a dit non à l'impudicité. Et il a commencé à servir le Seigneur, il a commencé à marcher dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans les intercessions, dans les jeûnes. Et puisqu'il était tout le temps en prière, il est arrivé qu'un jour son père lui dit, « Mais toi tu sors comme ça et tu es toute la journée, tu es parti. » Il dit à son père, parce que d'abord, avant, il sortait pour l'impudicité. Maintenant, il était converti, il commençait à sortir pour la gloire de Dieu, pour aller évangéliser, pour aller à l'intercession, pour aller prier, méditer, suivre les enseignements. Parce qu'à l'époque, j'étais en train de les former chaque samedi après-midi. Et le papa du frère qui dit, bon, comme tu fais ces choses, les jours où moi, je croiserai ton frère là, ton père spirituel là, en cours de route, qu'il s'arrange, parce que il y aura la bagarre entre moi et lui. Alors, le papa de ses frères avait pris cette décision. Le frère est venu m'informer de la décision de son père qui avait dit que son père avait pris une mauvaise décision contre moi. Et moi aussi, j'étais sous mes gardes parce que j'avais peur. Et je savais que lorsque ce papa sautera sur moi, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas répliquer parce que d'abord, le papa de ses frères, je le considérais comme mon papa. Il était mon papa. Et étant que serviteur de Dieu, même s'il me tapait, je ne pouvais pas réagir pour la gloire de Dieu. Je n'avais qu'à supporter les coups pour la gloire de Jésus. Et un bonjour, bien-aimé, sur une petite rue. Moi, je suis entré de l'autre côté et je venais. Je suis vraiment entré sur la rue au moins 20, 25, 30 mètres même. Et je vois le papa qui vient de l'autre côté. Il n'y avait personne derrière lui et derrière moi, il n'y avait personne. Entre nous, il n'y avait personne. Le papa qui venait de l'autre côté et moi aussi, je venais parce que je venais pour chercher les frères. Et j'avais peur, c'était grave. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est fini pour moi. Ce papa avait dit qu'il ne me croise pas sur son chemin. Et voilà, je suis aussi sur son chemin aujourd'hui. Ah, je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'avais peur. Mais il n'y avait pas moyen de reculer ni de faire demi-tour parce que... Il n'y avait même pas moyen parce que je lui respectais. Je ne pouvais pas fuir. Je ne pouvais qu'accepter le coup. Et pendant que j'approchais, je dis à Dieu, « Seigneur, je t'ai béni parce que tu as permis que je puisse croiser ce papa. Mais si tu es Dieu, je veux voir ta puissance aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je viens anéantir et neutraliser toute puissance de ténèbres qui pouvait animer ce papa contre moi au nom de Jésus. J'amène son esprit, son âme et son corps captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. » Ça, c'est la prière que j'ai faite dans mon cœur. Et lorsque nous nous sommes approchés face à face, le papa qui me dit, « Comment tu vas ?» J'ai dit, « Bien. » Et il entre, il ne m'a rien fait. Oh, j'ai glorifié le Seigneur. Je venais d'échapper au coup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à gagner les âmes. Parce que les âmes ont plusieurs maladies. Il y a plusieurs sortes des âmes. Il y a plusieurs sortes des âmes, bien-aimés, et plusieurs sortes de maladies. Il faut connaître ces maladies. Il y en a tellement beaucoup, bien-aimés, que je ne saurais pas tout citer. Et lorsqu'il faudrait citer les sortes des âmes et les maladies des âmes, bien-aimés, ça va nous prendre des mois et des années. Mais je souligne seulement que dans la Bible, le mot âme est repris dans la Bible plus de 362 fois. Le mot âme est repris dans la Bible plus de 362 fois. C'est-à-dire, s'il faut parler d'un seul verset de l'âme par jour, nous pouvons aller jusqu'au 28 décembre. Donc, nous pouvons parler de l'âme du 1er janvier au 28 décembre. Et puisqu'il faut témoigner et donner les exemples, ça peut nous prendre jusqu'au 31 décembre et plus d'une année. Donc, ce mot-là, âme, est repris plus de 362 fois. Alors, maintenant, quatrième point, nous venons de voir la démarche que Dieu a fait pour chercher Adam. C'est très important. Si vous ne le faites pas, bien-aimé, répands-toi, va chercher les âmes, parce que Dieu a besoin de ces âmes-là, et Dieu ne peut pas venir les chercher. Il n'y a que toi qui peux le faire, parce que c'est toi que Dieu a envoyé, et Dieu a permis que tu écoutes ses paroles. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les sortes des âmes. Ça, c'est le quatrième grand point. Les sortes des âmes. Parmi ces sortes des âmes, bien-aimés, vous trouverez que chaque âme a sa maladie. Chaque âme a son problème. Il y a plusieurs sortes des âmes. Et ici, nous avons énuméré 20 sortes des âmes. En d'autres termes, 20 maladies des âmes, 20 cas des âmes. Donc, chaque âme a sa maladie, chaque âme a son comportement, chaque âme a son problème. Et toutes ces sortes des âmes, bien-aimées, nous les tirons dans la Bible. Donc, pour chaque âme, il y a au moins un passage de la Bible. Aujourd'hui, nous allons arrêter là. Et je vous propose de parler des sortes des âmes à la prochaine séance. Et là, nous allons énumérer les problèmes des âmes, les problèmes et les maladies qui sont dans l'âme. Nous allons parler de cela. Mais entre-temps, par rapport à ce que nous avons eu aujourd'hui, puisque vous avez écrit, puisque vous vous êtes identifié par rapport à ce que nous venons de dire, puisque le Saint-Esprit vous a parlé, bien-aimés, je vais vous inviter à la repentance. Prenons, bien-aimés, le temps de nous repentir. D'ici à la séance prochaine, prenez le temps de prier, bien-aimés. Quand Dieu est venu chercher Adam, la Bible nous dit, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Dieu dit à Adam, où es-tu? Bien-aimé, la plus grande question que tu dois te poser pendant cette prière, pendant ce moment d'ici jusqu'à notre prochaine séance, la plus grande question que tu dois te poser, c'est cette question-là que Dieu a posée. Il a posé la question à Adam, où es-tu? Toi aussi, tu dois poser la question dans ta prière. Seigneur, où est mon âme? Mon âme, où es-tu? Seigneur, où se trouve mon âme? Parce qu'il y a des âmes qui se retrouvent dans la tombe. Il y a des âmes qui se retrouvent, je ne sais pas moi, dans la mer. Il y a des âmes qui se retrouvent peut-être dans des maisons, dans des villages. Il y a des âmes attachées qui se retrouvent dans le corps d'une autre personne. Peut-être que ton âme se retrouve dans le corps d'une autre personne. Pose la question à Dieu, où se trouve mon âme? Délivre mon âme. Je veux que tu me révèles où se trouve mon âme. Mon âme se trouve où? Dieu a posé la question à Adam dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, Adam était une âme vivante. Nous l'avons vu dans Genèse chapitre 2 verset 7 qui dit: Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insouffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc Adam était une âme vivante. Et lorsque Dieu est venu chercher Adam qui était une âme vivante, Dieu a posé la question: où es-tu? Donc Dieu voulait savoir où se trouvait l'âme d'Adam. Parce que Adam était une âme vivante. Dieu a posé la question à Adam: où es-tu? Il voulait savoir où se trouvait l'âme d'Adam. Et la Bible nous révèle où il se trouvait. Écoutez le verset 10, la réponse d'Adam. Adam répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Écoutez maintenant le verset 8. Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Donc, Adam est allé se cacher au milieu des arbres du jardin. Lui qui n'était qu'une âme vivante. Donc l'âme d'Adam était allée se cacher au milieu des arbres du jardin. Il était au milieu des arbres. Adam, une âme vivante, est allé se cacher au milieu des arbres. Mais toi là, ton âme se trouve où? Et la Bible dit même qu'il est allé se cacher loin de la face de l'Éternel. Et toi, tu es loin. Où? Demande à Dieu de te révéler où se trouve ton âme. Parce que tout ce qui se passe dans ta vie là, ce n'est pas normal, bien-aimé. Imagine un peu et réalise un peu tout ce que tu es en train de vivre. La souffrance, tout ce qui se passe, ton âme est quelque part. Mais elle est où? Dieu a dit à Adam: où es-tu? Où se trouve ton âme? Où se trouve l'âme de ton mari? Parce que ton mari, ce qu'il fait dans la maison, ce qu'il fait dans le ménage, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Mais où se trouve son âme? Ce qui se passe dans la vie de ta femme là, ce n'est pas normal. Chaque jour, tu as de la peine. Chaque jour, tu as des soucis à cause de ta femme, à cause de ses actions. Mais ce n'est pas elle. Son âme est quelque part. Mais où est son âme? Elle se trouve où? L'âme de ton enfant là se trouve où? Il a un comportement bizarre. Parce que lorsque l'homme ne se comporte pas bien, bien aimé, il a un problème dans son âme. Son âme se retrouve où? Il y a certaines maladies qui ne sont pas des maladies normales. Ce sont des maladies de l'âme qui se manifestent physiquement. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de solution. Il y a toujours des complications. On donne ces médicaments, ça ne va pas. On prescrit un autre médicament, ça ne va pas. L'âme est où? L'âme. L'âme. Si l'âme est malade, ça peut même faire souffrir les parties de ton corps. Tu verras, tu as toujours mal à la tête, tu as toujours mal aux jambes, tu as toujours mal aux pieds, tu as toujours mal quelque part. Ton âme se trouve où? Peut-être que ton âme est en train d'être châtiée. Peut-être que ton âme est en train de subir des chicotes. Ton âme est où? La prochaine fois, nous allons voir les sortes des âmes. Nous allons voir, bien aimé, le problème de l'âme, les maladies de l'âme. Et le lieu où les âmes se retrouvent. Nous avons sélectionné jusque-là 20. Il y en a tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout citer. Bien-aimés, d'ici là, nous allons vous prier de prier. Dis à Dieu: mon âme se trouve où? La mienne se trouvait dans le panier des pommes de terre en plein air. Aussi longtemps que je n'avais pas eu la révélation que mon âme se trouvait dans le panier des pommes de terre, il n'y avait pas de solution. Mais quand le Seigneur m'a révélé que mon âme se trouvait dans le panier des pommes de terre, en plein air, je l'ai invoqué, il m'avait délivré. Il m'a révélé et il m'a délivré. Et je vis un changement, un grand changement dans ma vie. Nous voulons prier. ta prière de ce soir, c'est de te repentir. Ta prière de maintenant, d'aujourd'hui, c'est de te repentir. Sa prière, ta prière d'ici, la séance prochaine, c'est de te repentir et de demander à Dieu où se trouve ton âme. Où se trouve l'âme de ton mari, toi qui es marié. Où se trouve l'âme de ta femme. Où se trouve l'âme de tes enfants. Les enfants, où se trouve l'âme de vos parents. Par vous, le Seigneur peut délivrer les autres. Par vous, oh Jésus, commence à te repentir. Commence à te repentir. Mon frère, ma soeur, repens-toi, humilie-toi. Nous sommes à genoux devant le Seigneur. Commence à te repentir. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Jésus. Oh Jésus. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi, bien-aimé. Oh Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons, oh mon Dieu, nous humilier devant ta face. Si tu ne pardonnes pas à mon frère, si tu ne pardonnes pas à ma sœur, qui encore peut nous pardonner? Si tu ne me pardonnes pas, qui encore, Seigneur? Je viens, je m'humilie, oh Seigneur, sous ta main puissante, je viens sous tes pieds, oh Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère, oh Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié, à cause du sang versé. À cause de l'alliance de l'âme, à cause de l'alliance de l'âme, à cause des pactes de sang, à cause des pactes de sang qui a lié l'âme, qui a lié l'âme, qui a enfermé l'âme dans la prison. Seigneur, aie pitié, pitié Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, demande au Seigneur de te révéler où se trouve ton âme et de délivrer ton âme, de guérir ton âme. Dis à Dieu, délivre mon âme, révèle-moi où se trouve mon âme, où se trouve mon âme. Bien-aimé, prie, demande à Dieu de te dire où se trouve ton âme. Horosondo shika baba yandaya sokoria baba. Yokondo sokoria baba yandaya shika baba. Hurra baba baba yandaya sokoria baba shika baba. Yokondo sokoria baba yandaya sokoria baba. Yaka baba yandaya sokoria baba. Yokondo sokoria baba yandaya shika baba. Oh Jésus, oh Jésus, où se trouve l'âme de mon bien-aimé? Révèle et délivre. Oh gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Prends vraiment au sérieux ces choses. Prends le temps de prier chez toi dans la maison. Tous les jours, prie. Prie, bien-aimé, que le Seigneur te révèle où se trouve ton âme et qu'il puisse te délivrer. Et le Seigneur fera de grandes choses. Je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour cette grande révélation que tu nous as faite. Adam, qui était une âme vivante, était allé se cacher loin de ta face, au milieu des arbres. Seigneur, je te demande de te manifester dans la vie de mon frère, de ma sœur, et de révéler où se trouve son âme. Révèle et délivre, car ta parole déclare dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Révèle et délivre pour ta gloire. Oh, quel sera, oh mon Dieu, grand sera le témoignage que tu accordes à mon frère, à ma sœur, à moi-même. Oh Jésus, alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que tu te manifestes. Prends mon frère et ma sœur en charge et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'était l'école Tyrannis, l'émission École Tyrannis, une émission d'enseignement, de formation afin de nous permettre de grandir spirituellement, d'être affermis et de parvenir à la maturité spirituelle. Ces enseignements sont les enseignements et les formations de la maison cité de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce de nous les révéler, de nous les donner, pour que les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde puissent en bénéficier, afin qu'ils soient guéris, que les âmes soient guéries, que les âmes soient libérées, délivrées, et que les âmes aient la vie. Alors, tous les CD de ces enseignements sont disponibles à la maison Cité de Dieu. Prière, nous contacter sur contact@gmcd.be, notre email, ou alors aller sur la rubrique contact de notre site web www.gmcd.be, www.gmcd.be, et vous verrez tous les coordonnées sur la rubrique contact. Cliquez sur contact et vous verrez tous les coordonnées, même les numéros de téléphone, et vous pouvez vous en procurer. Et si vous voulez que l'équipe de la maison Cité de Dieu se déplace jusque là où vous êtes, dans n'importe quel pays, par la grâce de Dieu, nous allons nous déplacer pour parler de ces choses face à face, là où vous vous trouvez, pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas de prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque le Seigneur vous révèle et vous délivre, n'hésitez pas de rendre gloire à Dieu par les témoignages. Et le Seigneur fera encore des grandes choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. La prochaine fois, nous parlerons des sortes des âmes, de tous les problèmes et de toutes les maladies de l'âme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus.